Biston klack, biston klack, biston klack, nous aimons la chanson française. Biston klack, mais nous détestons les fadaises, qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se pèle l'apôtre, cette phrase est notre devise. Notre devise, biston klack, biston klack, biston klack, d'accord pour les chanteurs, poètes. Biston klack, né dans le Rhône ou à Perpète, suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie, tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre, voilà notre philosophie. Philosophie, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack.
Bonsoir, notre émission de ce jour est la deuxième d'une série de deux consacrée au résistant Jean Batias. Jean Batias est un Lyonnais, né le 12 juin 1926 à l'Hôtel-Dieu, hôpital de la Charité à l'époque. Il fit ses études de mécanique boulevard du Tchécoslovaque, boulevard des Hirondelles à l'époque, et, tout jeune, il dut entrer dans le monde du travail à Villeurbanne, ville à laquelle il allait rester attaché depuis la période de la guerre jusqu'à aujourd'hui. Dès 1943, il eut des activités de résistance avant de passer dans la clandestinité, avec comme activité essentielle celle d'un appareil technique pour les FTP, activité qui allait le mener jusqu'à la fin de la guerre où il participa à la libération de Pusignan et de Villeurbanne. Nous évoquons donc avec lui son parcours et ses luttes au fil de ces deux émissions. Cette deuxième émission est consacrée plus précisément au thème de son rôle dans la bataille de Pusignan, puis dans les milices patriotiques de Villeurbanne, et de l'histoire de son engagement après la guerre. Merci de votre attention et bonne écoute.
Die Herren Generäle, haben uns verraten. Wer hat denn diese Herren?
Wer hat denn diese Herren,
Mamita mia, so schlecht beraten? Madrid, dich wunderbare, Mamita mia, dich wollten sie nehmen. Marchaos Legionarios, Marchaos Hitlerianos, Marchaos Invasor,
Mamita mia,
a vuestra tierra, porque el proletariado,
Mamita mia,
Ganó la guerra.
Il y avait les Moy qui étaient FTP Moy, mais ils étaient avec le Parti communiste aussi, mais c'était les étrangers, parce que eux, il y avait des Français aussi, mais très peu quoi par rapport. C'était tous des étrangers, beaucoup de Roumains, de... parce que pour la libération de Villeurbanne, c'est quand même eux qui ont pris la tête après pour diriger pendant 2 jours, pendant 3 jours.
Et, vous y étiez, la libération de Villeurbanne, c'était votre...
Parce que, quand on est revenu, parce que la sélection de Villeurbanne, elle s'est passée comme ça. Donc les Moy étaient rue Fontaine, la ligne de chemin de fer passait au-dessus là. Et sur la ligne de chemin de fer, il y avait les garde-voies allemands, et il y avait des trains allemands qui passaient. Ils remontaient du sud, ils étaient presque à la plus... ils étaient 100 kilomètres de là, 200 kilomètres peut-être à certains endroits, après le débarquement de... Parce qu'ils avaient trouvé les maquis déjà qui les avaient bien aidés, et les Allemands se repliaient. Et bon, il y a eu des accrochages avec partout. Bon, mais eux, ils étaient là pour libérer les trucs, mais ils étaient le long de la voie. Et puis, finalement, quand ils sont regroupés pour que c'était annulé, sur les voies, les Allemands, ils ont vu, il y en est parti, ils ont ouvert le feu sur eux, et eux, ils ont répondu, ils ont eu un tué là-bas, et un blessé assez grave, là. Et puis, après, ils ont remonté sur le cours Émile Zola, tout ça, pour se dégager, d'après. Mais la population, ayant entendu les coups de feu, ayant été travaillé parce qu'on en a disturbé des tracts, de se tenir prêt. Ils ont cru que c'était un maquis parce qu'ils avaient le brassard le tricolore. Ils remontaient en rang, quoi.
En bon ordre,
quoi. Après l'accrochage qu'ils avaient eu, les Allemands les ont pas poursuivis parce que. Et aussi, il fallait qu'ils s'organisent et tout. Et les gens, ils sont descendus dans la rue. Ils les ont encadrés, plus de 100 personnes d'un seul coup, et puis ils avaient beau leur dire « Non, rentrez chez vous, il n'y a rien eu à faire », ils les ont accompagnés jusqu'à la mairie, et puis ils sont mis à faire des barricades, des trucs comme ça. Et puis après, c'est le commandant Lefort, leur chef régional à eux, qui a pris le commandement et qui a donné l'ordre de faire des barricades tout le tour. Et c'est comme ça que c'est écorché. Mais nous, on était toujours là-haut, à la Croix du Banc, où on revenait. Et en revenant, il y a eu des problèmes, parce que les Allemands, ils étaient pas... Alors, nous, la deuxième traction, bon, on est tombé en panne, nous. Alors, sur le long de la route, et de l'autre côté, il y avait 5 camions allemands, de l'autre côté de la route, mais un peu plus haut. Mais bon, alors ils étaient arrêtés, ils fumaient, tout ça. C'était c'était pas une unité combattante, c'était des Allemands qui remontaient avec les archives ou tous ces machins-là, j'en sais rien. Et nous, on était un peu plus bas, mais en panne. Alors, il bricole le moteur, le machin, il regarde ce qui se passe, et puis il dit, merde, il y a plein de merde dans le carburateur parce que l'essence des fois qu'on avait alors il y avait une ferme à côté, il a été demandé au paysan et un chapeau, il avait un chapeau de feutre, il lui a demandé son chapeau, il en a vidé le réservoir, tout le filtré et tout, et nous avec on était là avec la mitraillette, putain, les Allemands, s'ils amènent, ils s'amènent. Enfin, ils ont tout remonté, et puis on est parti. Et on est arrivé bien, bien longtemps après les autres. Quoi. Mais, arrivé place Bellecour, on a été arrêté par les Allemands. Alors, ils avaient des cartes de... On était 5 dans la voiture. Les deux, ben c'était, je sais plus qui c'était, les noms de jumes, je sais pas si c'était Tito enfin, je me rappelle plus. Et ils ont demandé les papiers, et eux, ils ont sorti les papiers de Gestapo et tout ça, et les papiers, il y en avait. Alors, finalement, il a regardé, parce que le gars, c'était un Allemand, il était grand, puis il avait des branches sur la tête et tout, de tout ça. Leur boulot, c'était de laisser circuler les troupes pour qu'ils aillent se mettre ailleurs. Alors, il nous a laissé passer, comme en tant que... Mais eux, le matin, l'autre camion, le camion avec l'autre traction, ben pareil, à peu près dans le même coin vers Bellecour, ils ont été arrêtés aussi. Mais là, ça a été beaucoup plus difficile parce qu'ils voulaient réquisitionner le camion. Et dans le camion, il y avait les gars avec la mitraillette et tout. Là, c'est pareil, avec les faux papiers. Il a discuté avec les Allemands, ils étaient plusieurs, puis c'était une auto avec une mitrailleuse dessus. Alors l'autre, finalement, ils ont pas été regardés dedans. Autrement, ça aurait déclenché là. Mais alors, ils ont dit, bon, d'accord. Ils ont dit, ouais, nous, on est de la police allemande aussi, on a des prisonniers qu'on emmène à Montluc. Alors l'autre, finalement, il a dit, bon, d'accord, vous allez à Montluc, on vous suit, et dès que vous avez remis aux prisonniers, on réquisitionne le camion. On prend le camion. On me l'a raconté après, puisque on était des... Et puis, ils sont partis, alors la traction, le camion... Et puis derrière, l'automitrailleuse allemande. Et tout. Alors là, après, la traction a pris de l'avance. Et il y a un copain qui est descendu de la traction avec une bombe gamon. Vous savez, les bombes gamon, c'était du plastique enveloppé d'une chaîne noire avec un truc que vous auriez. Quand vous la lanciez, ça se déroulait, puis boum. Mais c'était puissant comme... Alors il s'est mis derrière les platanes, et puis quand le camion est passé, tout de suite il a balancé la bombe, et la voiture, elle s'est couchée sur le côté, et le camion a... Et ils ont tiré à travers le camion, la broche derrière, parce qu'ils les avaient comme ça, les copains, la bombe. Et ils ont tiré... Et puis l'autre qui avait lancé la bombe, ben, il est tombé, et puis ça l'a presque étouffé. Et il est parti à travers les maisons, parce qu'il y avait, c'était courant bétail, mais il y avait encore des maisons avec des jardins derrière et tout ça. Il est passé par derrière, il a pas...
Il s'en est tiré.
Et les autres, ils n'avaient pas d'autres renforts. Hein. Ils n'étaient pas si nombreux dans le truc non plus. Hein. Nous, on arrive l'après-midi, Urban en pleine insurrection. Et puis on rejoint les copains, et qu'est-ce qui vous est arrivé? Il nous dit, il nous est arrivé ça. Et puis c'est le début de l'insurrection, voilà comment on est rentré dans l'insurrection. Et parce que c'est la population de Villeurbanne qui s'est...
Et vous personnellement, vous étiez où? Vous aviez quoi à faire à ce moment-là? Ils vous ont affecté à quel...
Ah ben là, après nous on a... patrouillait dans toute avec la traction, on patrouillait de partout, on cherchait l'essence, s'il n'y avait pas des armes, mais il y a des gens qui sont venus nous dire un tel c'est un collaborateur, tout ça, c'était pas notre mission, on n'a pas arrêté personne, puis hein, qu'est-ce qu'on aurait fait? Et puis après, ben, deux jours après, il a fallu partir sur Pont-de-Churuy, là. Et on est parti sur Pont-de-Churuy pour il fallait évacuer, hein. Alors on n'a pas trouvé d'Allemands. Et à Pont-de-Churuy, on a rencontré un maquis qui descendait là, qui venait de libérer la Savoie. Et avec eux, on a fait le bataillon Henri Barbus. Mmh. Et puis, quand on a été prêt, moi, je suis revenu à Villeurbanne avant, en mission, pour recontacter tous les contacts qu'on avait, quoi, pour leur dire que le 30, on marcherait sur Villeurbanne de nouveau, quoi. Alors, j'ai fait cette mission-là, et puis ils m'avaient accompagné avec mais ils n'ont pas voulu venir dans Villeurbanne avec l'auto et puis les armes et tout ça. Alors à voix en l'un, il m'a dit, moi on va pas plus loin nous, hein. Alors on t'attend jusqu'à 17h le soir, ou 18h, je ne m'en rappelle plus. Et puis, mais je lui dis, oh, faut qu'il aille à pied jusqu'à la... Alors il me dit, mais je lui dis, ben... on va réquisitionner la première voiture qui passe, enfin, ou l'arrêter pour qu'il me conduise. Ben, les voitures, il n'y en avait pas beaucoup. Qu'est-ce qui arrive, une bonne femme en vélo, là, tout. Ben, ils l'ont arrêté, puis. Et je lui ai dit à la dame, ben, écoutez, je vous réquisitionne votre vélo, la résistance en a besoin, je le déposerai à la mairie de. Tout de suite, voix en blanc, là. Alors je suis venu en vélo faire ma mission, et puis je l'ai posé à la mairie, je suis rentré à la mairie, avec le vélo. Alors il y a une personne qui était là, je lui dis voilà, le vélo il a été réquisitionné, la dame viendra le chercher. Le gars il était. Et bien moi je l'ai laissé, je suis parti à pied pour revenir jusque là, faire ma mission.
Où donc est passé le vélo qui roupillait devant la porte? Il servait d'enseigne au bistrot, de chien de garde ou bien d'escorte. Un jour Dédé complètement rond voyait tous les gens à l'envers. Il a pris un flic pour sa mère. Son ange lui fila un marron. Où est passé le grand Ursule? Son chapeau et ses gants beurre frais. Son air de vivre pour de vrai. Ses grandes manières de crapule. Il a suivi la grande idée qui désintoxique et repose. Il est parti soigner les roses, a pris un flingue et s'est tiré. Où est passée la grosse Marie qui, à la fête de la Sainte Vierge, faisait brûler pour 1000 balles de cierge et jouait ses charmes à la loterie? Elle est partie sur la grande ours, avait toujours de drôles d'idées. L'hiver, ça lui flanquait la frousse, elle a rejoint le petit Dédé. Où donc est passé Mohamed, ses cacahuètes, ses noix de coco? Lui qui parlait tant de son bled, a dû y retourner en vélo. Ils se sont tous donné le mot. Les v'là partis, tous nos amis. Tous d'un seul coup, c'est beaucoup trop. Ça fait comme un trou dans Paris.
Et puis je suis reparti le soir, ils m'attendaient, et en voiture, je suis rejoint le bataillon Henri Barbus. Et le lendemain matin, on se mettait en route pour... Et là, c'est sur la commune de Pugignan, qu'on avait... Sur la route... Machin, il y avait une tente, et puis d'un seul coup, quand on approchait, les Allemands, ils sont partis en courant de derrière. Et bon, les chefs, ils ont dit, ben, les Allemands doivent être pas très loin. Et puis, préparé une bataille, c'est-à-dire les ailes d'un côté d'une route, les ailes de l'autre, et puis la pointe qui avance sur la route. Et on dit, mais c'est que... On a été vite bloqués, hein, et ça tirait de tous les côtés, dis donc. Ils étaient 1200 avec des chars et tout, des automitrailleuses. Et ils n'ont pas fait une offensive, hein, ils sont maintenus. Ils ne devaient pas savoir si les Américains étaient loin, parce qu'il y a des Américains qui sont venus, mais c'était des éclaireurs. Mais ils étaient presque encore à 60 km ou je ne sais pas combien. Alors, ils ne pouvaient pas nous aider, quoi. Et nous, on a tenu ce qu'on a voulu. Moi, avec la vie qu'on avait menée à tirer les trains, qu'on ne dormait plus, tout ça, le mastringue, faire la mission et tout. Alors, avec le père Thorlbach, qui avait 50 et quelques années, il ne pouvait plus... Ils ne pouvaient pas se mettre par terre parce qu'on était, moi j'étais, et ils étaient les deux fils, le père, et la fille, une des filles, elle était agent de liaison là, mais elle n'y était pas la bataille. Et moi, quoi, c'était nous de groupe, on était quatre. Alors moi j'avais une mitraillette avec des chars et tout, les machins, c'est pas. Hein. Et le père, Thorlbach, lui, il avait. Et des cartouchers, là, tout comme ça, là. Il avait un fusil Mauser. Alors, je lui dis, quand après on a pris position, je lui dis, mais non, donne-moi ton fusil, toi, ses enfants lui ont dit, tu vas retourner à l'arrière et t'attendras, hein. Il pouvait pas se coucher, il y avait bien des chemins creux à l'époque encore. Alors il était dans un coin, là, le chemin creux, près de la route. Hein. Alors finalement, il nous a engueulé tout ce qu'il pouvait. Et puis, il m'a donné son fusil, et puis moi, je lui ai donné ma mitraillette et passé à l'arrière.
Thank you.
Mais là aussi, je vais vous finir l'histoire. Parce que... Alors, bon, moi j'étais sur le côté gauche de la route, le long de la haie, mais il y en avait partout, et tout ça. Puis j'étais au bout là-bas. Tiens, et... alors, je cherche à voir les Allemands, parce qu'il y avait un pré, une autre haie. C'était pas comme maintenant, ils ont tout boutillé les haies, tout ça. Alors, en cherchant à voir, d'un seul coup, pom, ping, ping, des balles qui arrivent, je dis merde. Alors je m'accouche, je recouche bien par terre, mais j'arrivais pas à le voir. Mais lui, moi, dès que je bougeais, il me tirait dessus. J'ai dit, mon Dieu, mais. Eh oui, mais j'ai compris, c'est que lui, il était habillé en militaire pour la bagarre. Mais moi, j'avais une chemise rouge ou je sais pas quoi. Alors, dès que je bougeais, il me voyait. Et puis finalement, je me suis endormi sur le fusil. On était courus. D'un seul coup, j'entends. Il jappe là derrière moi. C'était un copain, il dit, on se replie, allez. Puis sur le coup, il a gueulé comme un Allemand.
Ou un peu, il vous laissait tout seul, là.
Et les Allemands, ils ont tiré. Ils avaient une mitrailleuse en batterie. Là, c'est pareil. On avait des armes, ça, le groupe, tous les groupes qui étaient partis de Pusignan. Il y avait des Moïs avec nous, c'est quelques-uns. Et les autres étaient partis sur Vénissieux. Et les armes, eh ben, on avait un mortier allemand avec quelques machins, mais on ne savait pas s'en servir. Alors, on avait un prisonnier allemand et on avait gardé parce que ça aussi, il faut le dire, bon, on avait fusillé je ne sais pas combien d'Allemands là-bas quand on était à Pont-de-Cherui dans un bois, une clairière, en représailles qu'ils avaient fait à Saint-Genis-Laval. Et bon, là, c'est pareil, moi j'étais de garde avec la mitraillette au bout du chemin. Et puis, d'un seul coup, alors ils ont fusillé, et puis ils sont sauvés, ils ont essayé de se sauver, les Allemands. Et c'était des jeunes qui avaient presque nos âges, hein, et tout. Et alors ils ont tiré de partout, puis le Paul. Il a été blessé, une balle qui lui a traversé la jambe. Et moi, j'étais en train de garder pour que personne vienne. Et tout. Quand j'y en pense, je dis, c'est pas possible. Ça a eu un pot formidable. Alors, de là, après, on a amené le Paul à l'hôpital et tout ça. Et puis, bon, on a un bataillon, on s'est mis en route, là, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et quand on s'est évacué le soir, à la nuit tombante, c'est un autre maquis, il y avait un maquis dans le coin qui est venu. Mais il n'est pas resté longtemps, lui, il est vite reparti parce qu'il y avait la bataille à Meximé ou je ne sais pas où, plus loin. Et les Allemands voulaient remonter pour le long de la Suisse, là, pour remonter. Alors eux, mais là, c'était déjà les maquis de l'Ain. Il y avait du monde et ils avaient de l'armement. Alors les Allemands. Tandis que nous, on était vraiment
Et des pertes à Pusignan, du côté maquisard. Pertes. Vous avez eu des pertes du côté maquisard.
Ah oui, on a eu 31 morts. Mais...
Ah oui.
Thank you.
Parce que quand on s'est replié le soir, la nuit commençait à tomber, et puis on était en convoi. Avec les voitures, il y avait tout, des tractions, des Peugeot, des toutes sortes de camions, des camionnettes ou n'importe. Et puis, on se repliait, d'un seul coup, moi j'étais dans la traction avec, dans notre traction avant, on était, non pas une traction, c'était une Peugeot avec la vitre au milieu, et le pare-brise était en deux parties. C'est vieux ces trucs-là. Vous les voyez un peu? Ben voilà, c'est une voiture comme ça. Alors il y avait le chauffeur, moi, et trois derrière. Il y avait le père patron le bras, et puis deux autres. Et on arrivait sur la route, alors moi j'avais ouvert ma portière un peu, parce que la nuit tombait, mais on ne pouvait pas allumer les phares non plus. Finalement, je vois en l'air, c'était plus clair, la nuit tombait. Je vois des espèces d'étoiles, je ne sais pas, j'ai le réflexe, je dis « Stop !» Puis, boum, je tombe par terre avec la portière ouverte. C'était un avion qui avait... L'obus est rentré entre moi et le chauffeur, mais moi j'étais tombé, il a éclaté derrière, le père Thorolbo est mort, les deux autres ils sont morts aussi, les trois de derrière ils sont morts, la tête éclatée, et l'autre, il avait plein d'éclats dans le foie. Le chauffeur, lui, il était criblé d'éclats, moi j'en avais 4-5 dans les sacs pissés parce que j'avais une oreille qui avait été un peu coupée là avec un éclat. Et moi, comme j'étais tombé par terre, c'est moi qui avais tout le machin. J'avais ma mitraillette encore, je tremblais comme un... et là, on a eu 10 morts de plus.
Oui, pas au combat, enfin,
Ils sont morts par l'avion qui a passé. Puis on ne savait pas, on a discuté longtemps après, c'était... un avion américain ou un Bosch, on ne sait plus, on n'a jamais su.
Thank you.
Alors la bataille de Pusignan, c'est ça, il y a eu 31 morts en tout.
Et vous êtes replié, donc ça s'est arrêté là, quoi. Les Allemands ont continué.
Ah ben moi, ils m'ont emmené à l'hôpital.
Vous étiez blessé.
Bourgoin. Et puis j'ai plus vu la suite après. Ils sont rentrés le 3, au lieu du 30. Le 30, on voulait aller le 30 août, et ils sont rentrés le 3. Et derrière, les Américains étaient tout de suite hier, là, il n'y avait plus de combat, il n'y avait pas de temps.
Et vous êtes resté longtemps à l'hôpital?
Oh, pas très longtemps, non, moi j'avais pas grand-chose. Après je suis qu'il y en a un qui était resté, parce que quand j'étais après dans la marine, il y en a un qui me passe une radio, je sais pas quoi, là. Alors il me dit, mais qu'est-ce que vous avez là dans le... Ben, je n'ai rien du tout. Il me dit, vous êtes lavé ce matin? Ben, je n'en sais rien, mais eh ben, il y a un éclat qui est resté. Bon, il ne m'a jamais embêté, je ne sais même plus si on le verrait maintenant.
Vous ne l'avez jamais enlevé? Il non, est resté? Un souvenir?
Ben non, parce que c'était ouvrir pour... c'était pas...
Et après, donc, quand vous sortez de l'hôpital, vous faites
quoi? Eh ben, je reviens à Virban, là, et on a formé les milices patriotiques. Mmh. On les avait formées avant, déjà, mais enfin, on était en caserne de la Doua.
Ah, ouais.
Et ils sont venus, après un mois, nous on faisait les forces... de police supplétive de police, mais alors ils ont voulu nous désarmer une fois. Bon, on est sorti de la caserne, tous armés. Les GMR.
Quand vous dites ils, c'était qui? C'était.
Eh ben, c'était les nouveaux pour issus de la résistance.
Enfin, les gens sous les ordres de Favre
de la mairie, là, et puis de Lyon, quoi. Ils n'ont pas insisté, et on est resté armés, on a fait arrêter, on a fusillé un à la doigt, hein, et puis on a arrêté d'autres trucs. Alors, même là-bas, la cuisine à la Doua, pour nous, les femmes, c'était toutes des femmes tondues, tout ça. Mais, bon, on les a pas machinées, quoi. Et puis après, quand Torres fait son discours, et là, on est rentré chez nous, quoi.
On a demandé. Et qui les dirigeait, ces milices patriotiques? C'était les anciens chefs de la résistance?
Là, oui. C'était tous des... Il y avait des syndicalistes, il y avait tout.
Ça a duré un mois?
Ça a duré plus que ça.
Plus que ça.
Parce que... Ça, oui. La guerre s'est finie en 1945, hein, le 8 mai. Hein. Eh bien, nous, on avait signé notre engagement pour la marine. Parce qu'il n'y avait pas qu'ici, hein, il y en avait dans toute la France. Hein. Et alors,
Et qui vous a fait signer l'engagement pour la marine? C'était les militaires français qui...
Pour
vous engager dans la marine?
Ah oui, là, c'était les Français. Parce que tous ceux, les soldats de... Tous ceux qui ont été avec De Gaulle de partout, ils en avaient marre. Il y en a qui faisaient 5 ans qu'ils étaient dans le truc. Et alors, des jeunes qui voulaient s'engager, tout de suite, ils étaient engagés. Quoi. Ça a été tout de suite avec mon métier.
Oui, si ce n'est, sauf que vous étiez trop jeune pour partir dans les troupes combattantes.
Voilà. pour le corps expéditionnaire d'Indochine, qui s'entraînait du côté de Bordeaux, là-bas. Mm-hmm. Et Paul y est allé, lui, et puis après, il est parti en Indochine. Mais après, c'était plus les Japonais, c'était nous qu'on bagarrait avec le Ho Chi Minh et compagnie. Alors, la situation pour certains, c'était pas marrant. Pour d'autres, non, il n'avait pas fait de résistance ou n'importe, mais...
Oui, il y avait un problème de conscience, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est un drôle de problème, après.
Il avait tout pour être heureux, un cœur en fête et les yeux bleus, joyeux et tous. Il était jeune, il était beau, avec de faux airs de marmot.
Comme quoi, mmh. Je suis médaillé de la résistance.
Mmh. Ouais, ils ont mis du temps, je vois que c'est 76.
Mais parce que ça, ils l'ont bien avant, le décret était déjà. Mais parce que je suis à la Libération, moi, avec mon copain, on faisait les tracts et tout ça. On s'était mis dans la tête, j'avais pas les 19 ans révolus, de partir en Indochine pour libérer l'Indochine des Japonais. Parce que l'Empire français, pour nous, c'était l'école, la Troisième République, hein. Bon, quand on est arrivé là-bas, lui... Alors moi, ils m'ont pas prié, parce que j'avais pas les 19 ans révolus le 1er mai, quand on a 45. qu'on a fait notre truc pour s'engager. Quoi. Mmh. Alors ils m'ont versé, moi, dans la marine, comme pendant 5 ans, j'ai pris 5 ans de marine,
oui.
Comme mécanicien, breveté provisoire, puisque notre métier, c'était, on était ajusteur, monteur, quoi.
Mmh.
Mais lui, il est parti, puisqu'il avait un an de plus que moi. Il est parti à Indochine, alors après, quand ça a tourné et que c'était plus les Japonais, ça a fait, pour lui, ça a été très difficile.
Difficile.
Il a réussi à se faire rapatrier comme soutien de famille, mais...
Et il a abandonné l'armée à ce moment-là ?
Oui.
Il s'appelait comment, lui ?
Paul Toralba. Il était rentré dans l'enseignement après. Et puis, et moi, je suis parti dans la marine à Toulon. On a passé par l'Afrique du Nord. Et il y a eu la révolte des... alors les noms maintenant, moi...
Sétif, le 8 mai
45. Oui, c'est, voilà, en 45.
45 hein.
Et moi, j'étais à Alger à ce moment-là, à attendre pour partir à Dakar. Et quand on était là-bas, ben, on a été coincés. J'ai passé un moment, j'ai bien cru qu'ils allaient nous envoyer à Sétif, là-bas. Mais bon, non, ils nous ont pris pour garder le matériel qui avait un tunnel sous le cap Matifou, là-bas.
Mmh. Bon. Ça a été plus tranquille.
Alors après, moi je suis parti par chemin de fer jusqu'à au Maroc. Et après, on a pris un bateau pour aller. Puis là, je suis resté un an et demi. J'ai eu une paire, mais après, je suis reparti pour la marine à Djibouti. Et je suis resté. Parce que à Djibouti, là-bas, quand un an et demi en milieu pour l'armée, et puis après j'ai fait démobiliser là-bas comme chef mécanicien du port de Djibouti. Alors, il me faisait un contrat de 2 ans, mais avant il fallait sans contrat. Quoi.
Mm-hmm.
Oui, mais comme ils m'ont fait faire laisser un an sans contrat, alors après 2 ans avec contrat, alors j'avais dit à l'ingénieur en chef, là-bas, j'ai dit, bon, je fais les 2 ans de contrat, puis ça sera fini, parce que vous m'avez eu pour un an sans contrat, et tout ça. Alors il m'a dit, oh, mais dans 2 ans, vous aurez changé d'idée, tout ça. Mais je n'avais pas changé d'idée. Je suis rentré à la Sigma.
Thank you.
Et quel regard vous portez sur tout ça, avec le recul? Tout serait à refaire de la même manière?
Oh, puis ça, je ne sais pas exactement comment ça se ferait de la même manière, mais bon, c'est sûr que là, il y a quand même une... C'est l'occupation aussi hein, qui a engagé les gens. S'il y avait eu un traité de paix, que la France soit complètement libérée, enfin, peut-être les territoires d'Alsace et tout ça, et sur la Belgique là-haut, tout ça, mais là, c'est que... Bon, tant que ça a été la zone libre qu'on a appelée, c'était pas le même problème, mais c'était une collaboration aussi, mais c'était pas... C'était les mouvements de résistance, mais moi, j'étais trop jeune un peu. Et se sont formés quand même, hein, la zone sud et la zone nord. Et puis, après, quand ils ont, le 11 novembre, ils ont envahi la zone libre, alors là...
Et puis il y a le STO, encore après.
Comment ?
Le STO, encore après.
Ah ben, il y a eu le STO, il y a eu tout ça, oui. Non, mais le STO, tout ça, ils sont partis dans les maquis et tout ça, ben c'était l'autre boulot aussi, et les faux papiers qu'on pouvait avoir pour donner... Ben, un tel, moi, je m'appelais... Tout ça, mais moi j'étais dans la résistance, j'étais permanent. Quoi.
Vous aviez aussi un faux nom, vous aviez.
Ouais, j'en ai
échangé.
Je m'appelais La Peine, Héroux. Finalement c'était Héroux. Mais pas trop changé mes dates de naissance. Mon domicile, j'avais mis La Fouillouse. 1m58, oui, d'accord. Ça c'était une fausse.
Une fausse. Vous aviez gardé votre nom, là.
Ah oui, là, c'était... j'avais mon nom, là.
Ouais,
et puis après... après, j'ai été...
Être uni, c'est le bout du monde. Le cœur de l'homme s'agrandit. Le bout du monde se rapproche, le cœur des peuples bat plus fort, le cœur des peuples bat la terre et la moisson sera parfaite. Le cœur des peuples bat la terre et la moisson sera parfaite. Notre travail est un défi, jeté au maître aux frontières. Nous voulons travailler pour nous, nous prendrons jour malgré la nuit, nous oublierons nos ennemis, la victoire est éblouissante. Nous oublierons nos ennemis, la victoire est éblouissante. Nous avons pénétré le feu, il faut qu'il nous soit la santé. Nous nous levons comme les blés et nous ensemençons l'amour. Nous nous levons comme les blés et nous ensemençons l'amour. Nous nous levons comme les blés et nous ensemençons l'amour.
Ainsi se termine cette émission, la deuxième d'une nouvelle série de deux consacrée au résistant Jean Battias. Cette deuxième émission avait pour sujet son rôle dans la bataille de Pusignan, puis dans les milices patriotiques de Villeurbanne, et l'histoire de son engagement après-guerre. Vous avez pu entendre successivement les illustrations musicales suivantes. Tout d'abord un document, un chant des brigades internationales, Mamita Mia. Et puis, vous avez pu entendre toute une série de pièces instrumentales dans l'ordre La Nuit d'Althusser 1, La Nuit d'Althusser 7, 12, 9 et 10. Il s'agit d'un ensemble de pièces musicales écrites par Gérard Mémone, musicien qu'on peut bien qualifier de villeurbanais. et ainsi la boucle se referme autour de Villeurbanne presque 70 ans après. Ces pièces constituent une partie des musiques de scène de la pièce de théâtre « La nuit d'Althusser » de Simon Jalade, mise en scène par Françoise Mémone et créée par la compagnie Françoise Mémone au Théâtre de l'Astrée de Villeurbanne le 4 octobre 2011. En sud, Gérard Mémone au piano, les musiciens sont Nadia Quentz au violon et Nicolas Debout au violoncelle. Vous avez aussi pu entendre Le Vélo, la chanson de Jean Moisiard pour les paroles, mise en musique par Hélène Martin et interprétée là par Jacques Marchais. Et puis un texte de Léo Campion, mis en musique par Goraguer et Boris Vian, interprété là par les quatre barbus, 7 ans de malheur. Et enfin, c'était Claude Vinci qui, sur les paroles de Paul Éluard et la musique d'Yvonne Schmitt, interprétait Être uni. Nous remercions Jean Batias d'avoir bien voulu accorder cet entretien à Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, et plus particulièrement à l'intérieur de celle-ci, à l'émission Bistantlac. Bonsoir.
Quand il chante la femme, son frère, son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistantlac. De la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistantlac. Mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en même mètre de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y'a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redissent, ils noircissent le printemps, aucune chance qu'on les bise, mais on les claque. son enfant quand un humain s'enflamme, c'est Bistoncle. C'est pas de la rengaine à Gavelis, passant pas d'études que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistoncle. Le printemps, qu'une chance qu'on les vise, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance sans même être de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les mise, mais on les claque. On se bise, on se bise.